C'était il y a une semaine lorsque le commandant de la force Barkhane a rendu visite au Bénin. Sous prétexte de coopération militaire, nous avions mis en garde dans Zoom Afrique d'un avis de tempête contre ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite n'augure rien de bon, puisque depuis la première attaque terroriste contre l'armée béninoise que le chef du DGE avait promise il y a quelques mois d'un ton sarcastique, la violence terroriste arriverait à la côte depuis le Sahel. Eh bien, cette visite est une mise en garde contre le Bénin, a-t-on alors mis en garde dans l'édition du 8 octobre dernier? Eh bien, à peine une semaine après, la mise en garde de Barkhane s'est réalisée et les frontières entre le Bénin et le Niger sont le théâtre d'intenses déstabilisations. Cette zone était jusque-là à l'abri des violences terroristes qui endeuillent le Niger depuis des années. Mais en septembre, des hommes armés ont mené la première attaque contre un poste de la douane de Malanville, la ville béninoise la plus proche du Niger, tuant 2 personnes. Maman Sani Haruna, qui vit sur la rive du fleuve, est catégorique. Les terroristes sont sur la frontière des 2 pays et s'ils sont traqués au Bénin, ils se replieront au Niger, lit-on alors sur les médias. Pour le moment, c'est calme. Il y a juste de petits bandits qui volent nos animaux pour les revendre aux bouchers, relève Mariama, Calebès sur la tête, qui part vendre du lait au Bénin en traversant à pied le pont sur le fleuve Niger. Dosso est jusqu'ici épargné par les violences attribuées aux groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, qui ont fait des centaines de morts dans les 2 régions voisines de Tillaberi et Taoua, proches du Mali et du Burkina. À cause de la crise sécuritaire, un de nos corridors, Lomé-Burkina-Niamey, est quasiment déserté par les camions et cela constitue un frein à la mobilisation des recettes, a confirmé le ministre nigérien des Finances, Amadjidoud. Ce qui se passe sur les frontières bénino-nigériennes, c'est exactement ce que le DGE avait promis il y a quelques mois, quand il avait affirmé que la violence terroriste arriverait à la côte depuis le Sahel. Depuis le redéploiement de Barkhane au Niger, après son expulsion du Mali, et les maintes mises en garde de l'axe US-OTAN, on s'attendait à une nouvelle vague de déstabilisation. En effet, l'émergence d'une coalition anti-US-OTAN France au Sahel, avec au centre le Mali, coalition à laquelle se rejoindra très bientôt le Burkina, depuis que M. Traoré est le président de tout ceci, dans un contexte où les puissances comme l'Algérie et la Russie sont pleinement disponibles à appuyer l'Afrique, a forcé la France et l'axe atlantiste à reculer et aller vers la côte, là où toute instabilité pourrait finalement aider au plan US-OTAN et comment ? Avec une région côtière instable, où plus personne n'osera aider les pays du Sahel à briser les sanctions occidentales. De plus, en semant l'insécurité au Sahel, il sera plus facile de faire transiter les terroristes par voie marine. Dans cette région, surtout que depuis la construction du plus long oléoduc du continent africain par le Niger, qui doit relier fin 2023 le gisement nigérien d'Agadem au port béninois de Sémé, cette insécurité et déstabilisation servira davantage à l'axe US-OTAN. Mais si les peuples s'unissent dans le Sahel et se soulèvent simultanément, il est clair que toutes les puissances occidentales réunies ne peuvent plus rien faire face à une telle vague de protestations. Année après année, la présence économique française sur le continent africain connaît de plus en plus de recul. Cette perte de vitesse est motivée par plusieurs raisons qui font perdre à l'ancienne puissance coloniale sa place de choix. L'accroissement du sentiment anti-français en Afrique ces derniers mois ne semble pas non plus lui faciliter la tâche. Récemment, le président de la Chambre africaine de l'énergie, Andrzej Ajuk, dans une interview à RIA Novosti, a déclaré que la France est jalouse de l'Afrique par la Russie, la considérant comme sa propriété. Il a noté qu'il existe de nombreux candidats à la coopération avec le continent africain, mais qu'il n'a pas de lieu de s'inquiéter. Le plus jaloux des événements au Burkina, en République centrafricaine, au Mali, selon lui, c'est Paris. Les Européens et les Français ont toujours considéré l'Afrique comme leur propriété, comme un esclave. Mais l'Afrique a dit « Assez, je vais divorcer, j'ai besoin d'être respecté, et rien n'en sortira sans respect », a souligné Ajuk. Bien que les exportations françaises, en valeur absolue, aient doublé entre 2000 et 2020, la présence économique française est tout de même en déclin. Elle est passée de 15 à 7,5%, d'après une étude réalisée par Laurent Boncept et Elie Tenenbaum. En 15 ans, la France a laissé de la place à plusieurs concurrents de taille, une présence économique française vacillante. Contrasté, c'est ce que sont devenus aujourd'hui les intérêts français en Afrique. Ceci malgré le fait que les exportations françaises en Afrique ont enregistré des progressions incontestables. Cette défection de la présence économique française sur le continent est surtout due à plusieurs facteurs. On peut citer entre autres l'inefficacité de la politique économique extérieure de la France, la baisse des exportations au niveau mondial. À cela s'ajoute l'arrivée de nouveaux concurrents et surtout l'accroissement des besoins des pays africains. Selon Moody's, la Chine est l'un des principaux investisseurs en Afrique, avec 114 milliards de dollars d'échanges. Elle détient plus de 27% des parts de marché sur le continent, ce qui fait d'elle le premier partenaire commercial du continent. Dans le souci de rattraper l'écart existant, le gouvernement a entrepris de nombreuses démarches. Mais va-t-elle pouvoir retrouver sa position en comblant le fossé? Pour l'instant, la bataille est rude, tant les États africains sont à la quête de nouveaux partenariats plus bénéfiques pour eux. Lors d'une réception solennelle organisée ce 1er octobre à Moscou, à l'occasion de la fête nationale du Nigeria, le chef de la mission diplomatique du pays en Russie, Abdoulaye Ishéo, a souligné l'importance de la collaboration scientifique entre les deux pays. Monsieur Ishéo et Madame Boutina se sont mis d'accord de tenir une rencontre spéciale pour aborder le développement ultérieur de contacts entre des établissements d'enseignement et scientifiques des deux pays. La France-Afrique est morte, tant sur le plan militaire que diplomatique ou économique. L'Afrique est sur une nouvelle voie, le bon cette fois, et la France et ses acolytes devraient le comprendre. L'octroi du statut spécial aux deux régions anglophones du Cameroun semble clairement semer la panique au sein de l'Occident. L'octroi du statut spécial à ces deux régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévissent depuis 6 ans des groupes armés sécessionnistes, lit-on alors sur les médias occidentaux. Qu'est-ce qui fait autant peur à l'ex-US OTAN? Nous avons contacté Pierre Claver-Codeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, magazine international paraissant à Douala au Cameroun, afin d'en savoir plus sur la situation.
Il faut bien rappeler à nos téléspectateurs que le statut spécial accordé aux régions anglophones est conséquent aux assises du Grand Dialogue National qui sont tenues à Yaoundé, dans la capitale politique camerounaise, en 2018. Et ces assises avaient donc pour objectif, en 2019, pardon, excusez-moi un peu, et ces assises avaient pour objectif d'explorer les voies et les pistes de solution de la crise dite anglophone. Car la partie anciennement colonisée ou alors rétrocédée à la Grande-Bretagne par la Société des Nations avait estimé, les populations de cette partie du Cameroun avaient estimé qu'elles étaient marginalisées et sont donc entrées en rébellion contre le pouvoir de Yaoundé. C'est vrai, de fil à aiguille, on s'est rendu compte que c'était la conséquence davantage d'une manipulation visant à faire main basse des abondantes richesses naturelles, parmi lesquelles le pétrole et le gaz qui se trouvent de ce côté-là, et une manipulation orchestrée par des puissances étrangères avec la complicité d'une certaine élite de cette région, une élite qui se recrute davantage parmi les ressortissants anglophones camerounais de la diaspora, résidant aux États-Unis, en Europe occidentale, au Canada et un peu partout. Ce sont donc ces élites qui, après avoir procédé à une vente par anticipation des ressources pétrolières, dont énergétiques, de la zone dite anglophone à une certaine société qui s'appelle Kilimanjaro Limited, une société de droit canadien, Ces élites sont donc entrées, ont donc mis en place des groupes rebelles qui sont entrés en conflit avec l'armée centrale à travers les assassinats des hommes armés, des fonctionnaires en poste de ce côté-là, les enlèvements, les prises d'otages, les kidnappings. Bref, c'est une région qui traverse pratiquement une situation de chaos depuis le début de ce conflit, il y a un peu plus de 5 ans. À l'issue donc du grand dialogue national qui avait eu lieu à Yaoundé, il a été décidé d'affecter à ces régions un statut spécial. Un statut spécial qui leur accorde un droit de regard sur la gestion de leurs ressources naturelles, qui leur accorde un droit de regard sur, à travers, bien sûr, la régionalisation, statut qui leur permet de jouir d'une autonomie relative en matière de gestion des impératifs de développement, des questions de développement local. Comme d'ailleurs, c'est le cas avec toutes les autres 10 régions. Mais le statut spécial des régions anglophones était davantage axé sur la prise en main ou alors la prise en charge de manière assez décisive de certaines questions de développement pour que celles-ci puissent elles-mêmes être en grande partie responsables de leur développement. C'est donc à l'issue, donc, comme je le disais tantôt, du grand dialogue national que cette décision a été prise. Aujourd'hui, elle a quand même débouché sur la démobilisation d'une partie des groupes rebelles. Donc, la démobilisation d'une partie des groupes rebelles dont les membres sont désormais pris en charge dans des camps d'insertion et de rééducation mis en place par le gouvernement camerounais. C'est une opération qui connaît pas un succès très éclatant, compte tenu de la conjoncture économique certainement, mais qui est assez bien accueillie par ces populations et surtout par une partie de ces compatriotes qui ont décidé de prendre les armes contre l'État central. Aujourd'hui quand même, on pense qu'il y a beaucoup de corrections à apporter dans cette question de statut spécial, surtout dans la mesure où tout ceci, ce conflit est en partie une conséquence de la colonisation, car comme vous le savez, le Cameroun n'a jamais été en tant que tel une colonie française ni une colonie britannique. Le Cameroun a été placé, la France a été placée, le Cameroun a été placé sous tutelle, et la Grande-Bretagne et la France ont donc hérité de certains territoires camerounais à la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Mais malheureusement, avec la mauvaise foi des puissances occidentales, le Cameroun s'est retrouvé assimilé à une colonie française et par la suite, après l'indépendance, après l'indépendance, la partie anglophone a également été assimilée à une ancienne colonie française. Ce qui, naturellement, n'a pas du tout été apprécié par une certaine élite anglophone qui, dont en 1961, certains membres avaient été corrompus dans le cadre de la fameuse conférence de Foumban, dont personne ne détient une copie des résolutions. Vous comprenez donc que la situation que le Cameroun traverse, la situation d'insécurité que traversent les zones anglophones du Cameroun, est davantage conséquence à un héritage colonial qui a été mal assimilé et qui a été mal géré, et sans doute sur instruction de la France qui ne voulait continuer à piller les ressources naturelles assez abondantes de ce côté. Je veux quand même rappeler à nos téléspectateurs que les premières exploitations de pétrole dans la zone de Bakassi, donc du côté du Cameroun anglophone, datent courent depuis pratiquement l'indépendance de notre pays, et c'est des entreprises françaises, transnationales françaises, qui exploitaient ce pétrole. Vous comprenez donc que les enjeux énergétiques sont également réels dans ce conflit qui est en cours depuis quelques années. Et dans le contexte actuel marqué par la rupture de la Russie avec l'Occident, on a plutôt peur que ce conflit gagne en ampleur dans la mesure où l'Occident est obligé de rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement en énergie, et notamment le pétrole et le gaz. Donc, je pense que lorsque on analyse en profondeur ce conflit, c'est un conflit dont nous aurions pu nous en passer, mais malheureusement, l'ingérence étrangère et surtout française est très forte au sein des administrations des anciennes colonies françaises, et celle-ci en fait détermine les choix stratégiques de nos pays, même de façon interne, dans la gestion des affaires publiques. Le cas du Cameroun, en ce qui concerne donc, la zone anglophone, est un exemple, en est un exemple. Oh, et vous verrez d'ailleurs que ce statut spécial qui est accordé aux régions dites anglophones n'a certainement pas trouvé ne fait pas plaisir à la France, parce que c'est un statut qui donne des coudées franches aux administrations qui seront déployées dans les zones anglophones pour pouvoir décider ou alors s'impliquer dans la gestion de leurs ressources naturelles, qui sont déjà assez abondantes et assez appréciables. Voilà donc un peu le scénario ou alors la situation que nous vivons en ce qui concerne le statut spécial des régions anglophones, qui malheureusement tarde à être traduit en acte, et le temps pris pour sa traduction en acte justement a pour conséquence la prolifération du grand banditisme dans des zones concernées, où de moins en moins les groupes terroristes combattent pour l'idéologie, pour la sécession, mais davantage pour des activités criminelles, parmi lesquelles les kidnappings, les assassinats, le chantage et autres. Bien entendu, avec la complicité de leurs leaders, qui sont pourtant installés dans des pays qui revendiquent être des gendarmes de la démocratie et des libertés. On en a aux États-Unis, on en a en Hollande, on en a en Grande-Bretagne, on en a en Belgique, qui en fait sont les donneurs d'ordre de ces groupes armés qui désormais écument cette région, non pas dans l'indifférence des forces de l'ordre camerounaises, mais dans un cas d'une confrontation directe avec les forces de l'ordre. Malheureusement, nous assistons à une guerre asymétrique où une armée classique, comme d'habitude, éprouve toujours des difficultés pour identifier l'ennemi, un ennemi qui se fond dans la foule assez facilement, et qui n'est donc pas vis-à-vis de qui on ne peut pas porter le feu, comme c'est le cas dans une guerre classique. C'est aussi l'une des difficultés que rencontrent les forces de sécurité de ce côté-là. Mais pour ce qu'on peut retenir, c'est que le statut spécial accordé aux régions dites anglophones peine à être traduit en acte, pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est la question qu'il faut se poser: est-ce que ce statut spécial a obtenu l'assentiment de la France, qui s'ingère dans toutes les questions de politique interne du Cameroun, comme d'ailleurs de tous les autres pays africains francophones?
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a autorisé vendredi 7 octobre 2022 à Abidjan l'octroi d'un don de 2,5 millions de dollars au gouvernement mozambicain pour développer les énergies renouvelables dans le pays. Les ressources qui proviennent du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, administré par la banque, serviront à mettre en œuvre le programme d'intégration des énergies renouvelables au Mozambique. Avec l'appui du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, la capacité du Mozambique pour intégrer un plus grand volume d'énergie renouvelable augmentera, ce qui contribuera aux efforts du pays pour devenir un des principaux fournisseurs d'énergie régionaux, a déclaré Daniel Alexander Schoch, directeur du département des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la Banque africaine de développement. Il a ajouté, le Mozambique étant un des pays les plus vulnérables au changement climatique, le projet va aider à construire une infrastructure de production d'électricité plus durable et plus résiliente. La coopération entre le Cameroun et le Pakistan est essentiellement commerciale jusque-là. Les deux pays avaient déjà toutefois formulé l'ambition de densifier leurs échanges à l'occasion de la présentation des lettres de créance du haut-commissaire pakistanais. Reçu en audience le mardi 11 octobre par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella, le haut-commissaire du Pakistan au Cameroun, avec résidence à Abuja, a révélé que son pays pourrait bientôt ouvrir une ambassade au Cameroun. Yaoundé devrait également ouvrir une représentation diplomatique à Islamabad. Nous avons échangé sur les problèmes de visa avec les consuls dans nos différents pays. Le ministre m'a assuré que le Cameroun va bientôt commencer le système e-visa et cela rendra le processus de visite très facile pour les investisseurs et autres voyageurs, a déclaré le haut-commissaire Mohamed Tayeb Azam d'après des propos rapportés par Cameroun Tribune. L'ouverture d'ambassade devrait densifier les échanges entre le Pakistan et le Cameroun. Ces échanges sont plus commerciaux aujourd'hui. Le Cameroun importe en effet de nombreux produits alimentaires du Pakistan, notamment du riz, de l'alcool, du sucre, de la confiserie, mais également des produits textiles et plastiques. Alors qu'elle est engagée dans la lutte contre le chômage des jeunes, la Tanzanie veut installer des centres de formation professionnelle dans tout le pays. En rapprochant les formations des populations, le gouvernement veut donner la chance à cette cible de se doter de compétences pour l'emploi. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a inauguré le jeudi 13 octobre une université dans le district de Bukoba, au nord-ouest du pays. L'établissement à caractère technique et professionnel est un don du gouvernement chinois d'une valeur de 22 milliards de shillings. L'université, d'une capacité d'accueil de 1 400 étudiants, va proposer des formations académiques de longue durée et des formations professionnelles de courte durée dans les domaines de transport, des mines, de la technologie entre autres. Le centre de formation que nous avons lancé aujourd'hui fait partie des efforts déployés par le gouvernement pour transmettre des compétences aux jeunes afin de leur permettre de s'employer ou de trouver un emploi. Des militants et sympathisants du Parti pour les libertés et le développement ont fait un point de presse ce 15 octobre à la Maison des médias. Ils dénoncent la gestion individuelle du parti par le secrétaire général Mamad Ahmad Alabo. Adam Ahmad reproche au numéro 1 du parti le refus systématique de la tenue d'un congrès extraordinaire afin que les échanges entre les militants de base et l'exécutif soient fluides et pouvant permettre de faire grandir l'organisation. Plusieurs correspondances faisant état de la situation délétère de la gestion du PLD ont été transmises au comité exécutif qui les a chaque fois classées sans suite, sans y accorder une quelconque importance. De même, nous dénonçons le mutisme et l'absence des voix de notre parti dans la prise de position sur les sujets importants concernant notre pays lors des assises du dialogue national inclusif et souverain, affirme Adam Mahmad. Ses partisans et sympathisants du PLD recommandent l'organisation de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du regretté professeur Ibni Omar Mahmad Saleh.